carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Deveau.
Bonjour et bienvenue dans cette avant-dernière et sixième émission consacrée à la vie de Frédéric Chopin. Jean-Pierre Grévois, grand mélomane et auteur du livre « Moi, Jean-Sébastien Bach », continue à nous livrer la vie du compositeur à travers ses écrits. Jean-Pierre Grévois, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons débuter cette émission en écoutant une mélodie de Chopin. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Oui, alors cette mélodie s'appelle « Le printemps » et c'est une mélodie que Chopin aimait particulièrement, bien que certains exégètes la trouvent un peu simplette. Mais enfin, c'était pour lui comme une berceuse et Liszt l'a quand même arrangée pour le piano. Et donc c'est une œuvre que moi que je trouve extrêmement touchante et très belle. Avant qu'on l'écoute, je vais vous donner les paroles, quelques extraits des paroles. « Mon cœur soupire, une larme emplit mon œil, là-haut, une alouette se joint à moi. Elle monte vite et disparaît dans les nuages. » Mais son chant proclame encore la douce chanson de la terre qu'elle porte jusqu'aux cieux.
Alors nous allons donc tout de suite l'écouter. Il s'agit de la mélodie intitulée « Le printemps ». Alors, dans notre précédente émission, nous avions laissé Chopin au moment de la rupture avec George Sand. Ces lettres nous apprennent-elles comment Chopin vit cette rupture, Jean-Pierre Grévois ?
Oui, et d'abord parce qu'il garde, après sa rupture, le contact avec Solange, la fille de George Sand, qui s'appelle désormais Madame Clésinger, et ils correspondent d'une manière assez suivie. Et 2 mois après la rupture, vous allez voir qu'il est encore inquiet de ne pas avoir de nouvelles de George Sand. Alors la lettre « Frédéric Chopin à Solange Clésinger à Besançon, Paris, le samedi 18 septembre 1847. Je vous remercie sincèrement de vos bonnes nouvelles. Vous allez donc courir la belle Franche-Comté et je vous prie de ne pas m'oublier dans vos voyages afin que je sache où vous écrire. Toujours pas de nouvelles. Alors, ce n'est toujours pas de nouvelles, c'est donc sans doute une allusion à George Sand. Et vous, continuez à bien vous porter. Permettez-moi de vous donner une bonne poignée de main, accompagnée de tous mes vœux pour votre bonheur, ainsi qu'à votre mari. Alors, en relisant cette lettre, vous allez voir que dans plusieurs des lettres à Solange, il termine toujours « Permettez-moi de vous donner une bonne poignée de main ». Et c'est assez curieux comme formule, parce que Solange, à l'époque, elle devait avoir une vingtaine d'années. Et en général, on ne cherche pas à donner une poignée de main à une jeune femme, même si on l'aime de pure amitié. Enfin, je vous soumets cette petite réflexion. Dans la lettre qui suit, il se préoccupe des relations entre Solange, son mari et George Sand. Cette lettre est intéressante aussi pour une autre raison, car il y parle un peu de tout, comme il le fait très souvent dans ses lettres. Sa santé, ses ratures en écrivant, son français et sa difficulté à commencer une lettre. Et alors, il y fait allusion aux deux visites que Solange rend à sa mère après la rupture, et ces deux visites dont on aura l'occasion de reparler. Alors, cette lettre est écrite donc à Solange Clésinger le mercredi 24 novembre 1847. « Je commence tous les matins depuis 15 jours à vous écrire combien je suis peiné de l'issue de vos deux visites à Nohant. Cependant, le premier pas est fait, vous avez montré du cœur et il y a un certain rapprochement car vous êtes prié d'écrire. Le temps fera le reste, vous savez aussi qu'il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qu'on dit. Si on ne connaît plus un étranger comme moi, par exemple, il ne peut être de même avec votre mari qui est devenu de la famille. Tout Paris est malade, il fait un temps affreux et vous faites bien d'être sous un beau ciel. Restez bien portante et bien disposée, je tâcherai de vous donner des nouvelles meilleures que notre climat, mais pour cela, il faut que cette vilaine année finisse. J'ai vu Delacroix chez moi qui m'a prié de vous exprimer tous ses regrets de n'avoir pu vous rencontrer. » Alors, vous voyez que Solange, malgré sa rupture avec sa mère, elle continue à avoir des relations avec des tas de gens, en particulier avec Delacroix et le tout Paris. Il y a aussi dans Le Siècle un article de Madame votre mère sur l'histoire de Louis Blanc. Voilà tout. J'étouffe. J'ai mal à la tête et je vous demande pardon de mes ratures et de mon français. Donnez-moi une bonne poignée de main ainsi que votre mari. Dieu vous garde. Encore la poignée de main, oui.
Chopin écrivait souvent aux mêmes personnes. Qui était-elle ?
Alors, il y a quand même des interlocuteurs de base qu'il a, c'est sa famille polonaise. Mais il écrit aussi à des amis, souvent des Polonais, il écrit souvent en polonais. Hein. Et il écrit, pendant cette période-là, souvent à Solange, la fille de George Sand, ou à ses éditeurs, ses fournisseurs de piano. Et cette correspondance qu'il a avec sa famille, moi, ça me rappelle un peu la correspondance de Mozart. Mozart a la même transparence et la même sincérité quand il écrit à ses parents, mais malheureusement, il n'a aucun talent pour écrire, et cela ne dure que jusqu'à sa fâcherie avec son père, où là, il est plus transparent et on ne voit plus le vrai personnage à travers lui. Ce qui est extraordinaire chez Chopin, c'est que jusqu'à la fin, il écrit à sa famille d'une manière totalement franche et transparente. Et ça, c'est fascinant. Alors, je voudrais vous lire maintenant une lettre qui est écrite 3 mois après la rupture avec George Sand. Il écrit ça à sa famille, et en particulier à sa sœur Louise, qu'il aimait énormément. Il écrit cette lettre le 6 janvier 1848, et il l'a commencée le jour de Noël. Alors ça, c'est typique de Chopin, il commence ses lettres et ça dure 3 semaines. À Louise, une de mes anciennes lettres commençait que je n'ai pas brûlée. Mes enfants bien-aimés, je ne vous ai pas répondu tout de suite parce que j'étais extrêmement occupé. D'ailleurs, Mademoiselle de Rosière a dû écrire à Louise et lui dire que je me porte bien et que j'ai du travail par-dessus la tête. Gavard m'a remis pour Louise la suite des dessins dont la première partie attend depuis longtemps chez moi l'occasion d'être envoyée. Je vous les apporterai moi-même un jour. Il espère donc toujours revenir en Pologne. Et alors Gavard, c'est un érudit qui était polytechnicien, mais être polytechnicien ne l'empêchait pas d'être peintre. Vous voyez que polytechnique mène à tout. Et donc, il avait une fille qui était une excellente pianiste, qui s'appelait Élise, et pour laquelle Chopin a composé un certain nombre d'œuvres.
Alors, je vous propose donc d'écouter la valse dédiée à Élise Gavard, la sœur de l'ami dont Chopin parle dans sa lettre. Il s'agit de la valse en fa mineur, opus 70, numéro 2.
Alors, après avoir écouté cette valse, je voudrais vous lire la suite de la lettre qui est tout à fait touchante et passionnante sur l'histoire entre Chopin et George Sand. Solange est en Gascogne chez son père. Elle a vu sa mère en passant. Elle s'était rendue à Nohant, mais sa mère l'a reçue froidement, puis lui a déclaré qu'elle ne pouvait revenir à Nohant qu'à la condition de se séparer de son mari. Solange a trouvé sa chambre nuptiale transformée en théâtre et son boudoir en vestiaire pour les acteurs. Elle m'écrit que sa mère ne lui a parlé que de questions d'argent. Son frère, qui jouait avec un chien, n'a trouvé à lui dire que la phrase suivante « Veux-tu manger quelque chose ?» Elle n'a vu ni sa cousine, ni les autres. En un mot, ces deux visites n'ont abouti à rien. Je dis ces deux visites car elle est retournée le lendemain à Nohant. Elle y a été reçue plus froidement encore. Cependant, sa mère lui a demandé de lui écrire ce que Solange a fait sans doute. Pour le moment, la mère est, paraît-il, plus irritée contre son gendre que contre sa fille, bien qu'elle m'ait écrit dans la fameuse lettre que son gendre n'est méchant que parce que sa fille l'incite à l'être. Vous vous rendez compte, c'est vraiment l'horreur. Hein. On pourrait croire qu'elle a voulu se débarrasser du même coup de sa fille et de moi, car tous deux nous la gênions. Et comme elle restera en correspondance avec Solange, son cœur maternel, qui ne peut se passer tout à fait de nouvelles de son enfant, sera apaisé pour un temps et sa conscience endormie. Elle estimera qu'elle est juste et proclamera que je suis son ennemi parce que j'ai pris le parti de son gendre et qu'elle ne supporte plus à présent et pour la seule raison qu'il a épousé sa fille. Et pourtant, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ce mariage ne soit pas conclu. Singulière créature, malgré toute son intelligence. Une sorte de folie s'est emparée de son esprit. Elle bouleverse son existence et saccage celle de sa fille. Pour le fils, cela finira mal aussi, je le prévois, j'en jurerai. Pour se justifier à ses propres yeux, elle voudrait découvrir quelques méfaits commis par ceux qui lui veulent du bien, qui ont eu confiance en elle et qui n'y ont jamais causé le moindre tourment et qu'elle ne peut souffrir auprès d'elle parce qu'ils sont le miroir de son âme. C'est la raison pour laquelle elle ne m'a plus écrit un seul mot et c'est pourquoi elle ne rentrera pas à Paris cet hiver et c'est pour cela qu'elle n'a pas dit un mot de moi à sa fille. Je ne regrette pas de l'avoir aidée à passer les 8 années les plus délicieuses de sa vie. Celles où sa fille grandissait, celles pendant lesquelles elle a élevé son fils, je ne regrette rien de ce que j'ai souffert, mais je plains sa fille, cette belle plante élevée avec tant de soins, préservée de tant d'orages, que pour être ensuite brisée de la main maternelle, avec une imprudence et une légèreté qu'on pourrait passer à la rigueur à une femme de 20 ans, mais non à une de 40. Ce qui a été et n'est plus, n'entre plus en ligne de compte. Plus tard, lorsqu'elle se replongera dans son passé, Madame Sand ne pourra y retrouver qu'un bon souvenir de moi. Pour le moment, elle est dans le plus bizarre des états d'exaltation maternelle, jouant le rôle d'une mère meilleure et plus parfaite qu'elle ne l'est en réalité. C'est une fièvre contre laquelle il n'existe aucun remède, surtout quand l'être dont elle s'empare est pourvu d'une imagination débordante et s'élance sur un seul mouvant. En attendant, notre hiver n'est pas très dur. La grippe règne. Quant à moi, j'ai bien assez de ma toux ordinaire et je ne crains pas plus la grippe que le choléra. Je respire de temps en temps mes flacons homéopathiques et je donne beaucoup de leçons chez moi et je me maintiens comme je peux. Chaque jour, j'ai le dessein de vous écrire et pourtant cette lettre commencée l'an dernier, voici seulement que je l'achève aujourd'hui, 6 janvier. Alors, cette lettre, moi je la trouve tout à fait extraordinaire parce que elle peut être l'objet de tas de polémiques, elle l'a été d'ailleurs, parce que je comprends mal, comme vous le savez, les exégètes. Il y a ceux qui sont pour George Sand, ceux qui sont pour Chopin, ceux qui sont contre les uns et les autres. Mais là, on a un texte absolument touchant, d'une finesse psychologique extraordinaire.
Il semble souffrir de cette séparation.
Ah oui, mais vous me laisserez ne pas prendre parti.
Bien évidemment. Et on constate également, à travers cette lettre, qu'il porte toujours un jugement sur son entourage. Est-ce que vous l'avez constaté ?
Oui, mais c'est un jugement qui n'est jamais méchant, c'est un jugement qui n'est jamais agressif, si vous voulez. Il aime bien se moquer un peu des gens. D'ailleurs, c'était un type qui avait beaucoup de drôlerie et qui était souvent ironique. Mais son ironie n'est jamais mauvaise et méchante.
Non, mais elle est toujours présente.
Elle est toujours présente, absolument.
Alors, quelle est la vie artistique et mondaine de Frédéric Chopin après George Sand ?
Eh bien, pour la première fois depuis longtemps, est-ce que c'est lié à la rupture avec George Sand ou pas ? Là encore, les exégètes ont fait beaucoup d'interprétations sur la chose. Donc, pour la première fois depuis longtemps, il donne un concert public chez Pleyel le 16 février 1848, 8 jours avant la Révolution. C'est un triomphe et il annonce ce concert à sa famille dans la lettre suivante. Frédéric Chopin à sa famille à Varsovie le vendredi 11 février 1848. À tous ceux qui me sont chers, mes bien-aimés, il y a bien longtemps que je ne vous ai pas écrit. Je suis bien portant et j'ai reçu votre lettre. Comme tout le monde ici, j'ai eu la grippe et si je vous écris si brièvement aujourd'hui, c'est que ma pensée est absorbée par mon concert. Il aura lieu le 16 de ce mois. Mes amis sont venus me voir un matin pour me déclarer que je devais absolument en donner un. Ils ont ajouté que je n'aurais à m'occuper de rien, si ce n'est de m'asseoir au piano et de jouer. Et alors, le parallélisme de ça avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier concert qu'il a donné à Vienne, où tout le monde le suppliait aussi de venir jouer. Les billets sont tous vendus depuis une semaine et ils sont à 20 francs. Le public s'inscrit pour un second concert que je ne pense pas donner. Alors que les journaux avaient seulement annoncé que j'allais peut-être donner un concert, la cour a fait prendre 40 billets et l'on écrit de Brest et de Nantes à mon éditeur pour retenir des places. Un tel empressement me surprend. Alors, est-ce que c'est une formule de modestie ou sincère ou pas ? Je vous laisse l'interprétation. Et je dois dès aujourd'hui me mettre à jouer, ne serait-ce que par acquis de conscience, car il me semble que je joue plus mal que je n'ai jamais joué. À titre de curiosité, j'exécuterai un trio de Mozart avec Allard. Allard, c'était un violoniste de l'époque, et Franchomme, qui était son fameux ami violoncelliste. Il n'y aura ni billets gratuits, ni affiches. La salle est élégante. Elle peut contenir 300 personnes. Pleyel, qui me taquine toujours à propos de ma bêtise, va, pour m'encourager à jouer, faire garnir l'escalier de fleurs. Vous voyez, c'est extraordinaire, parce que Chopin, implicitement, est tellement sensible qu'il demande, sans le demander, mais Pleyel le sait, à ce qu'il y ait des fleurs sur l'escalier qui va monter. Je serai presque comme chez moi, et mes yeux rencontreront surtout des visages amis. J'ai ici le piano sur lequel je jouerai. Vous voyez, cette sorte de volonté de ne pas jouer devant un public important, tout est fait pour qu'il soit comme s'il jouait chez lui ou devant quelques amis. Si Dieu nous donne la santé, nous nous reverrons et nous causerons et nous nous embrasserons. Je vous irai davantage après le concert, je vous embrasse de tout mon cœur.
Alors au cours de ce concert, il joue avec Franchomme sa sonate pour violoncelle. Écoutons donc le scherzo de cette sonate pour violoncelle et piano, opus 65.
Thank you.
Alors, quelques jours après ce concert, il apprend que Solange va être mère. Et il lui écrit cette lettre et en profite pour lui décrire la situation à Paris après la révolution de fin février. Frédéric Chopin à Solange Clésinger, à Guillery, vendredi 3 mars 1848. « Je ne puis m'empêcher de vous écrire de suite tout le bonheur que j'ai à vous savoir mère et bien portante. L'avènement de votre petite fillette m'a donné bien plus de joie, comme vous le pensez, que l'avènement de la République. Dieu merci que vos souffrances sont passées. Un monde nouveau commence pour vous. Soyez heureuse, soignez-vous. J'avais bien besoin de vos bonnes nouvelles. J'étais au lit pendant les événements. J'avais une névralgie pendant toute la semaine passée. Paris est tranquille par peur. Tout le monde est rallié, tout le monde aide la garde nationale, les boutiques sont ouvertes, pas un acheteur. Les étrangers, avec leurs passeports, attendent les réparations des chemins de fer abîmés. Les clubs commencent à se former. Mais je ne finirai pas si je voulais vous écrire les choses d'ici. Merci encore pour votre bonne lettre, votre tout dévoué. Frédéric Chopin. Et alors là, on arrive à une lettre, une des lettres les plus célèbres de Chopin. C'est celle où il raconte sa dernière entrevue avec George Sand, qu'il rencontre par hasard chez Madame Mariani, qui était l'épouse d'un diplomate espagnol, contrairement à ce qu'on pourrait croire à travers ce nom de Mariani, et qui recevait de tout Paris et qui est restée une amie extrêmement proche de George Sand, même après Chopin. « Je suis allé hier chez Madame Mariani et en sortant, je me suis trouvé dans la porte de l'antichambre avec Madame votre mère. » Il l'appelle toujours Madame votre mère. « J'ai dit un bonjour à Madame votre mère et ma seconde parole était « S'il y avait longtemps qu'elle a reçu de vos nouvelles. »« Il y a une semaine, m'a-t-elle répondu. »« Vous n'en aviez pas hier ou avant-hier ?»« Non. »« Alors, je vous apprends que vous êtes grand-mère. » Solange a une fillette et je suis bien aise de pouvoir vous donner cette nouvelle le premier. J'ai salué et je suis descendu l'escalier. Et comme j'avais oublié de dire que vous vous portez bien, chose importante pour une mère surtout, maintenant vous le comprendrez facilement, mère Solange, j'ai prié Combes. Alors Combes, c'était un personnage extraordinaire qui était saint-simonien et qui était allé faire des explorations en Abyssinie. J'ai prié Combes de remonter pour ne pas grimper moi-même et dire que vous alliez bien et l'enfant aussi. J'attendais l'Abyssinien en bas quand Madame votre mère est descendue en même temps que lui et m'a fait avec beaucoup d'intérêt des questions sur votre santé. Je lui ai répondu que vous m'avez écrit vous-même au crayon deux mots le lendemain de la naissance de votre enfant et que vous avez beaucoup souffert mais que la vue de votre fillette vous a fait tout oublier. Elle m'a demandé si votre mari était auprès de vous. J'ai répondu que l'adresse de votre lettre me paraissait être mise de sa main. Elle m'a demandé comment je me portais. J'ai répondu que j'allais bien. Et j'ai demandé la porte au concierge. Alors, cette lettre, donc, elle est très célèbre, mais elle pose quand même un petit problème. Pourquoi est-ce que Solange prévient Chopin avant de prévenir sa mère? Ça montre que l'état des relations n'était quand même pas très flambant entre la mère et la fille.
Alors, comment voit Chopin Londres et les Britanniques?
Alors, oui, eh ben, il faut vous dire que d'abord que Chopin va aller à Londres parce qu'il est encouragé depuis longtemps par une de ses élèves qui s'appelle Jane Stirling et sa sœur qui s'appelle Madame Erskine. Il part pour Londres et voici le récit de son voyage. Frédéric Chopin à son ami Albert, toujours le cher Albert. Londres, le vendredi saint, 21 avril 1848. J'ai traversé la mer et je n'en ai pas été trop malade. J'ai renoncé à prendre le courrier et à continuer ma route avec les connaissances faites dans le train pour ne pas devoir gagner le bateau en mer sur une barque. Vous voyez, il fait toujours connaissance avec des gens. C'est pas du tout le romantique renfermé sur lui-même. Dès qu'il circule, dès qu'il fait connaissance avec des gens. J'ai préféré emprunter la voie ordinaire. Je suis arrivé ici à 6 heures après m'être reposé pendant quelques heures à Folkestone. J'ai dormi et je t'écris. Les braves Erskine, c'est-à-dire Mademoiselle Stirling et sa sœur Madame Erskine, ont pensé à tout, non seulement au chocolat, mais aussi au logement. Elles m'ont beaucoup parlé de toi. Tu ne peux imaginer combien elles sont bonnes. Je m'aperçois à l'instant même que le papier sur lequel je t'écris est à mon chiffre. Elle me comble d'attentions délicates de ce genre. Comme c'est aujourd'hui le Vendredi Saint et que nul n'est visible à Londres, je vais aller dans les environs rendre visite à des personnes de l'entourage de l'ex-roi Louis-Philippe. Et alors, donc, il fréquente la bonne société anglaise et écossaise et il parle d'abord dans une lettre de ses deux amis écossaises qui l'ont fait venir en Angleterre. Mes chères dames écossaises me témoignent beaucoup d'affection. Je suis toujours chez elles quand je ne vais pas dans le monde. Mais elles ont l'habitude de se trimballer toute la journée, de se casser les reins en voiture dans tout Londres pour déposer des cartes. Elles voudraient que je rendisse visite à tous leurs amis, mais moi c'est à peine si je suis encore en vie. Comme je me suis fait balloter 3 ou 4 heures en voiture, c'est tout comme si j'avais fait le voyage de Paris à Boulogne. Les distances ici, il y a un bal polonais très réussi, mais je n'y suis pas allé, bien qu'on m'ait envoyé un billet, car je n'avais plus la force, et j'avais auparavant un dîner chez Lady Kinloch, en compagnie de Lord, de Chancelier, et de diable sait de qui encore, en tout cas de toutes sortes de gens nantis de grands cordons sous leurs gilets. On me présente ici, mais je ne sais pas à qui, je ne m'y reconnais pas du tout, à Londres. 20 ans de Pologne, 17 ans de Paris, qu'y a-t-il d'étonnant que je ne me sente pas à l'aise ici, et d'autant moins que je ne connais pas la langue. Ces Anglais ne parlent pas pendant que je joue, et ils disent du bien partout de ma musique, paraît-il. Mais d'après mes petits camarades qui ont l'habitude d'être traités ici de bas en haut, j'adore la formule, qui sont habitués à être traités de bas en haut, ils n'agissent ainsi que parce qu'ils me considèrent comme une sorte d'amateur. Ils me prendront bientôt pour quelque grand seigneur parce que j'ai des souliers propres et que mes cartes ne portent pas la mention « donne des leçons chez lui, joue en soirée, etc. » La vieille Rothschild m'a demandé combien je coûte, car une dame qui avait entendu parler de moi s'en était enquise auprès d'elle. Comme j'ai demandé 20 guinées à la duchesse de Sutherland, je lui ai répondu « 20 guinées ». La brave dame, visiblement très bonne, me répondit alors que je jouais effectivement très bien, mais qu'elle me conseillait de prendre moins, car durant cette saison, il fallait plus de moderation. J'en déduis qu'ici aussi, on n'est pas bien large et que l'argent est difficile à trouver. À la bourgeoisie anglaise, il faut de l'extraordinaire et du mécanique, ce qui m'est impossible. Quant au grand monde qui voyage, il est hautain, mais policé et fort juste quand il se décide à juger par lui-même. Mais il est tellement distrait par 1000 choses, tellement circonscrit par l'ennui des conventions et des convenances, qu'il est devenu indifférent que la musique soit bonne ou mauvaise. Il en entend du matin au soir. Aucune exposition de fleurs sans musique, nul dîner sans musique, aucune vente de charité sans musique. Il y a autant de Savoyards et de Tchèques parmi mes collègues que de chiens dans le pays, et je m'en plains. Et alors, c'est extraordinaire, parce qu'on se croirait maintenant dans tous les restaurants, partout, on entend de la musique. Je trouve ça très amusant. Et alors, il continue à parler de ces Écossaises dans une lettre à Albert, toujours l'éternel Albert, du 3 octobre 1848. « Mes braves Écossaises, que je n'ai pas vues depuis quelque temps, viendront me rendre visite aujourd'hui. Elles souhaitent que je reste encore pour aller rôder dans ces palais écossais, ici et là, partout où l'on m'invite. Elles sont bonnes, mais si ennuyeuses, que le bon Dieu leur pardonne. Elles m'écrivent tous les jours, je ne leur réponds pas, mais dès que je me trouve n'importe où, elles y arrivent tout de suite quand elles le peuvent. C'est peut-être cela qui a fait penser à quelqu'un que j'allais me marier. Mais il faudrait pour cela éprouver quelque attrait physique. Or, celle qui n'est pas mariée me ressemble par trop. Comment ferais-je pour m'embrasser moi-même ? L'amitié est l'amitié, ai-je déclaré nettement. Elle ne donne pas droit à autre chose, et même si je tombais amoureux et qu'on me rendît l'appareil comme je le désirerais, je ne me marierais pas parce que nous n'aurions pas de quoi manger ni nous loger. » Toujours ce mélange d'ironie, de tristesse, d'inquiétude et d'analyse psychologique d'une finesse tout à fait extraordinaire.
Donc Chopin dédia deux nocturnes à Jane Stirling. Et nous allons l'écouter, il s'agit du Nocturne opus 55 numéro 1 en Fa mineur.
Donc après son séjour en Angleterre, Chopin va en Écosse. Il rencontre encore d'autres membres de la société écossaise. Et je ne peux pas résister de vous citer quelques passages très courts de ses lettres. Par exemple, celle-là du 18 août. « J'ai rencontré Carlyle, Hogarth, Lady Byron, avec qui, paraît-il, je sympathise beaucoup. Je ne suis pas étonné qu'elle ait ennuyé Byron. Il serait difficile de les citer toutes. » Une autre lettre, écrite le 16 octobre, « Je suis allé en Écosse, ce beau pays de Walter Scott, avec tous ses souvenirs de Mary Stuart et de Charles, etc. J'erre d'un lord et d'un comte à l'autre, et partout reçu avec la bienveillance la plus cordiale et une hospitalité sans limite. Il est difficile d'imaginer le luxe et le confort qu'on trouve dans les châteaux anglais, tout y parle à l'imagination, et j'y promène mon incertitude. » Encore un autre extrait. S'il entend le mot artiste, l'anglais pense qu'il s'agit d'un peintre, d'un architecte ou d'un sculpteur sur bois. La musique est pour lui une profession et non un art. Et dans une lettre à Albert, lorsqu'il est à Glasgow, il écrit la chose suivante. « Ce ne sont que cousins et cousines de nobles familles portant d'illustres noms que je n'ai jamais entendus sur le continent. La conversation roule toujours sur des sujets généalogiques. C'est comme dans l'Évangile. Un tel qui engendra un tel, et cela sur deux pages pour arriver à Jésus-Christ. Il semble que toutes ces créatures sont un peu folles. Une lady me montra un livre en disant « La reine l'a feuilleté et je me trouvais alors juste à côté d'elle. » Une autre m'a déclaré qu'elle était la 13e cousine de Mary Stuart. Une autre encore chante debout en s'accompagnant au piano. Toutes regardent leurs mains et jouent des fausses notes avec sentiment. Quelles originales, Dieu les garde. Et alors là, une parole gentille pour les Français, mais les Anglais sont si différents des Français à qui je me suis attaché comme au mien propre.
Et qu'en est-il de sa santé ?
Alors là encore, quelques citations vont nous montrer que sa santé physique est en train de se dégrader et que surtout, on a l'impression que lui qui était si gai, qui arrivait à se contrôler quand il souffrait, etc., là, il y a une sorte de découragement qui est vraiment dramatique. « J'étouffe moins ce matin, mais toute la semaine passée, je n'étais bon à rien. J'évite tous les grands concerts publics. Je ne suis pas encore habitué à cet air de Londres et cette existence de dîner, de soirée, mais bien difficile. J'ai craché du sang ces derniers jours et je n'ai fait que prendre du citron et des glaces. Si je n'étais en état d'errer toute la journée, si j'étais plus jeune, si je n'étais terrassé par mes amitiés comme je suis, alors... peut-être pourrais-je recommencer ma vie. » C'est découragement qui... Mais il y a toujours une note d'espoir, quand même. Alors, autre lettre écrite le 8 juillet à l'éternel Albert. « J'ai peu d'avance en poche et je ne sais ce que je vais faire. Selon les heures, j'ai de la santé, mais le matin, je pense parfois que je vais rendre l'âme à tousser comme cela. Mon âme est triste, mais je m'étourdis. J'évite même la solitude afin de ne pas penser. Moi, je ne peux plus m'attrister ni me réjouir. J'ai perdu complètement la faculté de sentir. Je végète seulement et j'attends que ça finisse au plus vite. Ah, si je pouvais savoir que la maladie ne m'achèvera pas ici cet hiver. » Et dans une autre lettre écrite un mois plus tard, « Ma santé n'est pas tout à fait mauvaise, mais je deviens plus faible et l'air d'ici ne me va pas encore. » Et dernier passage, « Je suis dans le calme, la tranquillité, je suis bien, mais dans 8 jours, il me faudra partir. » Et alors vous allez nous dire pourquoi il
nous
faudra partir.
Parce que pendant ce séjour de 7 mois en Angleterre et en Écosse, il a changé 41 fois de résidence. Le 27 août, il donne un concert à Glasgow, il est ovationné, il y joue en particulier la ballade en fa majeur, opus 38.
Thank you.
Ainsi, à la veille de son retour en France, nous voyons un Chopin affaibli physiquement et moralement. Malgré cela, mais peut-être aussi pour s'étourdir et ne plus penser, il continue à mener une vie incroyablement rythmée de visites, rencontres et voyages. Cependant, il semble ne plus avoir le recul nécessaire vis-à-vis des choses et personnes qui rendaient ses lettres si séduisantes et humoristiques parfois. Elles restent néanmoins toujours aussi transparentes et écrites avec talent. Lors de la prochaine émission, nous allons voir Frédéric Chopin revenir à Paris. Il y retrouvera tous ceux qui lui sont chers et leur sera fidèle jusqu'au bout. Merci Jean-Pierre Grivois de continuer à nous transporter dans la vie de Frédéric Chopin.
Mais je vous en prie.
Si une œuvre vous a plu et que vous désirez en connaître sa référence, vous pourrez la retrouver en bas de page du texte joint à cette émission. Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous écrire à communication@canalacademy.com. Et si vous désirez écouter ou réécouter les émissions que nous avons consacrées à la vie de Frédéric Chopin, vous pouvez également les retrouver à la fin de notre article. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour notre dernière émission rendant hommage au bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin.